Chapitre 2. Comment expliquer l'instabilité de la croissance? Grand 1. Une activité économique instable. La croissance économique est instable. Si, sur le long terme, la production a fortement progressé, cet accroissement global des richesses produites ne s'est pas fait sans à-coups. Se succèdent des périodes de croissance soutenue, expansion, et des périodes de ralentissement, voire de recul de l'activité productive pendant une période plus longue, récession. Ainsi, on voit apparaître des périodes de crise économique, entendues au sens strict comme le point de retournement à la baisse de l'activité économique. Dans un sens plus large, ces situations conjoncturelles désignent l'ensemble de la période au cours de laquelle on assiste à un ralentissement de la croissance économique, voire à une dépression, lorsque l'on note une baisse durable de l'activité économique, accompagnée d'un chômage élevé et prolongé. Les fluctuations économiques, c'est-à-dire les mouvements de ralentissement ou d'accélération de l'activité économique, sont repérables non seulement en étudiant les variations de la production, PIB, mais aussi celles des prix, période d'inflation et de désinflation, ou encore celles du chômage, qui sont assez nettement corrélées à celles de la croissance. Grand 2. Choc d'offres et instabilité de la croissance. Les fluctuations économiques de court terme peuvent provenir de perturbations exogènes ou endogènes qui affectent, positivement ou négativement, le lien entre capacité de production et prix. Ces fluctuations peuvent trouver leur origine dans un choc d'offres qui affecte positivement ou négativement les conditions de production d'une économie donnée. Ces chocs d'offres engendrent un déplacement de la courbe d'offres, soit vers le bas, dans le cas d'un choc négatif, soit vers le haut pour un choc positif. Dans cette logique, le tsunami au Japon en mars 2011 est un exemple de choc d'offres négatif du fait de ses conséquences désastreuses sur la structure productive du pays. Inversement, la mise en place d'une innovation de procédé, par les effets bénéfiques qu'elle engendre sur les capacités productives, constitue un choc d'offres positif. Grand 3. Choc de demande et instabilité de la croissance. L'activité économique peut aussi connaître des fluctuations en raison de l'existence de chocs de demande qui peuvent toucher une économie. Dans certains cas, ces événements peuvent avoir un effet stimulant sur la demande globale et donc participer aux phases d'expansion. Il s'agit d'un choc de demande positif, par exemple une baisse du prix du pétrole. Dans le cas inverse, lorsqu'il génère un ralentissement, voire une baisse de la demande, il s'agit d'un choc de demande négatif, par exemple une baisse d'impôts, qui concourt au retournement de la conjoncture vers des phases de récession ou de dépression. Ces chocs de demande se représentent graphiquement par un déplacement vers la droite pour les chocs positifs ou vers la gauche pour les chocs négatifs de la courbe de demande. Grand 4. Cycle du crédit et fluctuations économiques. Les fluctuations de l'activité économique sont aussi à relier à la dynamique de l'endettement. C'est ce que l'on nomme le cycle du crédit. Celui-ci contribue en effet à expliquer le caractère endogène de l'instabilité de la croissance. En période d'expansion, le paradoxe de la tranquillité joue. Dans un contexte d'optimisme général, hausse des revenus, projets d'investissement rentables, les banques sont incitées à prêter aux agents économiques à des taux bas, puisque les capacités à rembourser sont a priori fortes. Les agents financent leurs dépenses d'investissement et de consommation à crédit, alimentant ainsi la demande globale et renforçant encore la croissance économique. L'activité bancaire sert donc d'accélérateur à la croissance. Cependant, on voit aussi apparaître lors de ces phases des prises de risques plus importantes. Des crédits sont accordés à des agents moins solvables, des comportements spéculatifs se développent et des bulles peuvent se former. Ces excès peuvent générer une crise financière et se propager par la suite à l'économie réelle. En effet, lorsque les agents prennent conscience des risques qu'ils encourent et que les anticipations de croissance sont moins optimistes, retournement des anticipations, les banques augmentent les taux d'intérêt et limitent les crédits qu'elles accordent. Dès lors, la demande chute, provoquant baisse des prix, faillite des entreprises les plus fragiles, voire récession et chômage de masse. Grand 5. Inflation, déflation et dépression. Les périodes d'inflation, c'est-à-dire caractérisées par une augmentation générale et durable des prix, peuvent être considérées comme néfastes pour certains agents économiques, puisqu'il y a alors perte du pouvoir d'achat de la monnaie. Cependant, la situation inverse, la diminution générale et durable des prix, est tout autant, voire davantage, à craindre. En effet, lors de ces périodes, divers mécanismes cumulatifs, baisse des prix, des salaires, de la masse monétaire, apparaissent, susceptibles d'engendrer déflation et dépression. C'est le risque de spirale déflationniste, cercle vicieux dans lequel la déflation se maintient et accroît la récession. Dans une telle spirale, la baisse des prix génère une réduction de la production via plusieurs canaux. D'une part, la déflation se caractérise par des anticipations générales de baisse des prix futurs. Pourquoi acheter aujourd'hui ce qu'on peut acheter moins cher demain ? Les consommateurs reportent leurs achats et participent donc à la baisse de la demande. Pour s'adapter, les entreprises produisent moins et baissent encore plus leurs prix, puis réduisent les salaires ou licencient. Cela pèse encore plus sur la consommation et l'investissement. De plus, la déflation participe à la hausse des taux d'intérêt réels, désincite au crédit bancaire et freine donc encore plus la demande et la production.